Interview.
Interview spéciale.
Spéciale.
Spéciale. Spéciale. 100 ans de la radio.
40 ans des radios libres.
10 ans de RDWA.
10 ans de RDWA.
Ça te dérange si je ferme la fenêtre ? Excuse-moi.
Oui.
Là, à l'instant, je me trouve dans le studio de RDWA,
ouais.
avec qui ?
Avec moi.
Alors c'est qui toi ?
Avec Baptiste. C'est ça que tu veux savoir ?
Ouais, Baptiste et peut-être il y en a d'autres
famille.
De personnages.
Baptiste Lefort, Sarou. Ah oui. Ouais, ça c'est mon pseudo radio. S-A-R-U. Mais ça se dit Sarou. Bon, il y en a qui disent Saru, tant pis.
Et d'où il vient ce personnage de radio ?
Il vient pas de la radio. C'est pas un personnage de radio. Saru, c'est le diminutif de Saruman. Et c'est le méchant dans Le Seigneur des Anneaux. Et c'est arrivé à une période, tout début de mon activité numérique, je dirais en 2005, 2006. Pour moi, c'était hyper important d'être non pas anonyme numériquement, mais de pas utiliser mon nom pour être présent sur Internet. Et donc, du coup, je me suis mis, parce que je suis fan du Seigneur des Anneaux, je me suis mis à tenter plusieurs fois des noms de héros. Tu vois, par exemple, si tu mets Gandalf, et ben, t'es le 13 000e Gandalf. Alors, on te propose Gandalf 13 000 quelque chose. Voilà, et donc j'en enchaîne comme ça. Après, je me mets même des personnages mineurs, même des gens qui sont vraiment des pourris dans le film, comme Gollum, bah, lui aussi, il est pris. Et Saruman, pas du tout. Parce que c'est vraiment le vrai, vrai méchant. Enfin, en tout cas, ceux qui ont lu le livre le savent. Voilà.
Et dis-moi, Saru, dans ce personnage de radio, il fait des interviews, il fait parler des gens. Et c'est... Quelle est ton astuce à toi ? Quelle est ta porte d'entrée dans la manière que tu as de rencontrer les gens au micro de RDWA ?
Ah, attends, je lance mon émission en même temps. Comme ça, je peux te parler pendant qu'il n'y a pas de... Tu vois, comme ça, on ne perd pas de temps.
Et oui, et puis parce que là, tu es en train de lancer l'émission qui s'appelle...
Melting Dub.
Voilà, et Melting Dub, c'est une émission qui est...
De musique dub, dédiée à la musique dub. Voilà, ou au style musical dub, j'ai plutôt envie de dire. Ou au genre, enfin, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ? Disons que le dub, c'est une technique de production un peu particulière, liée au mouvement reggae, mais qui va dans tous les sens. Alors, moi, c'est ce que j'aime avec cette musique, c'est d'aller vraiment dans tous les sens. Et du coup, ça me permet Attends, 30 secondes, je regarde. Ça me permet de passer par un peu tous les styles musicaux que j'aime bien. Et puis surtout de passer des choses très fusionnées, je trouve ça classe aussi quand il n'y a plus trop de barrières musicales, qu'on ne sait pas que c'est tel genre de musique ou tel autre genre. Voilà.
Voilà, et maintenant c'est le moment de lancer ton émission.
Ah vas-y,
allez,
je vais la lancer en direct.
Alors non, justement pas en direct.
Mais non, justement là pas en direct, parce que sinon, ou alors tu te tais. À l'écoute de votre radio locale préférée, salut à toutes et à tous, merci d'être à l'antenne et c'est parti pour une heure de grosse basse, vous le savez, Melting Dub avec ce soir pas mal de sons qui vont nous amener dans des ambiances différentes, on partira reggae puis progressivement vers le stepper pour finir vers des choses plus expérimentales, mais là encore une fois je ne surprends pas. Tout de suite, Iration, cette formation très reggae là. Right here, right now, Stony High Studios, The Remix.
Tu viens de lancer une première proposition musicale. Et alors, tu as fait le choix comment ?
Parce que j'aimais. Je reçois plein de trucs depuis 10 ans maintenant que l'émission existe. Si, c'est là, je suis à 583. Attends, c'est un peu fort. Donc du coup, je reçois pas mal de choses. Ça, c'est pas mal. Ça m'évite de chercher autant qu'avant. Mais en même temps, je cherche aussi. Donc j'écoute plein de trucs. Et il y a un moment où j'écoutais beaucoup de dub en permanence. Et maintenant, je pense avoir acquis comme ça, en tout cas savoir qu'est-ce qui me branche ou qu'est-ce qui me permet de créer tel ou tel type d'ambiance dans l'émission. Et donc, je vais plus rapidement au but. J'ai pas forcément besoin d'écouter l'album en entier. Donc maintenant, je travaille de manière beaucoup plus rapide. Je me suis mis une heure avant. J'ai sorti un peu tout ce que j'avais là qui était sorti dernièrement et j'ai fait une sélection. Voilà.
Et le texte qui accompagne, c'est improvisé?
Ouais, t'as vu, j'y a rien d'écrit.
Donc voilà, alors maintenant il y a le réalisateur d'une émission musicale, Melting Dub, et il y a aussi l'intervieweur. Et toi, tu as une manière sans doute bien à toi de mener les interviews régulièrement sur RDWA. Comment tu les abordes, ces gens que tu rencontres?
J'essaie de créer une ambiance qui se rapprocherait peut-être d'une communication de café. Ou si ce n'est de café, d'un moment où tu es bien en soirée. Voilà, tu rencontres quelqu'un dans un canap et hop, c'est parti. Sauf que là, on n'a pas le canap. Mais j'essaie plutôt de faire ça, ouais, d'inviter les gens à oublier qu'on est dans un dispositif un peu de micro, même si tout le monde est prévenu. Et puis d'amener comme ça les sujets tranquillement, par exemple, par la vie de la personne qu'on a en face de nous. Moi, je suis très focalisé sur l'humain, en fait. Plus encore que ce qui va nous apporter, nous apprendre. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme ou la femme qui est là derrière, en fait. Qu'est-ce qui légitime, même si des fois, les personnes n'ont pas du tout l'impression d'être légitimes pour le faire, mais... Qu'est-ce qui légitime, en fait, qu'il soit bien là, en train de nous raconter l'histoire qu'il nous raconte. Voilà. Et après, la deuxième chose, c'est l'éducation populaire. Donc, moi, je me pose des questions. Alors, j'invite sans doute une partie des auditeurs à se poser les mêmes questions que moi. Et est-ce que d'autres y répondent ou donnent leur point de vue là-dessus? Donc, il n'y a rien d'engageant, de risqué, de polémique dans cette démarche. Enfin, j'ai l'impression. Et donc, ça permet d'être comme ça, à la cool, de se tutoyer si possible. Moi, je tutoie assez facilement l'interview. De rigoler aussi. Voilà, on se détend, on rigole, on dit une connerie aussi. On peut même la garder, cette connerie. Voilà. Plutôt comme un moment où ça va être agréable et la personne aura pris du plaisir à se raconter et à nous raconter quelque chose. La Grande Cuidad, la Gorda Dubs Remix, fit Tino El Pinguino, c'est le Mexican Dubweiser sur le bon album.
Vengo de la gran ciudad, aquí donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar. Oye, mi Ulises, déjame empezar. Sí, déjame. Vengo de la gran ciudad, aquí es donde me gusta siempre estar. Tengo demasiado en qué pensar. Venga, Marcelo, déjame empezar. Crecí en la ciudad más contaminada del mundo, la que te arranque el alma cada...
On remonte un peu dans le temps, quand même, il le faut bien à quelques moments. Ouais. Et donc, Baptiste Lefort, dit Sarou, est un des créateurs de RDWA. Et ça fait bientôt plus de 10 ans maintenant que cette radio associative existe. Ouais. Alors, comment tu vois maintenant là, l'évolution? Quel regard tu as sur ce passé?
Je vois RDWA avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, de plaisir et encore un petit peu d'étonnement, tu vois. Je parle super fort, mais... parce que je suis tout le temps surpris par ce qui s'y passe, quoi. Bon, on monte ce projet parce que déjà on fait pas grand chose d'autre, qu'on a plus envie de faire ce qu'on fait, qu'on a envie d'écouter de la bonne musique, qu'on a envie d'être un petit peu acteur politique du territoire, de donner la parole aux gens. Et tout ça, aujourd'hui, 10 ans après, ben c'est clair que non seulement c'est vérifié, mais maintenant c'est reconnu aussi par la population, par les élus, par les institutions, par les associations qui nous côtoient, quoi. Donc, en fait, ça va très, très vite. Et puis après, j'ai une autre image, c'est que je dis que Erdiwa, c'est un peu un train lancé assez rapidement, comme ça, sur une voie... Bon, quand on veut l'attraper, on s'arrache un peu le bras. Une fois qu'on est dedans, il y a quelque chose qui donne comme ça au collectif une envie de produire, de partager des choses et de s'enrichir mutuellement, de transmettre. Et donc ça, c'est, ouais, c'est une, vraiment une grande, grande satisfaction. En plus de l'espace social que ça a créé. Parce que là, ça c'est indescriptible aussi. En 10 ans, le nombre de gens qui sont... là, avec nous, à côté de nous, on l'a vu dans les périodes comme le premier confinement, etc. On n'est pas seul, les gens nous écoutent aussi, hein, au-delà même de la... Je parlais plus des gens en interne, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a une communauté d'auditeurs maintenant.
Alors, et tu parlais de « on », donc il y a... Alors, pardon. Donc, il y a 10 ans, vous êtes plusieurs à créer cette radio. Tu veux bien en dire quelques mots de cette équipe de l'époque?
Ça part avec beaucoup de personnes, mais je vais dire ceux qui ont le plus bossé pour que la radio émerge, c'est Louis Bertrand et Ludovic Maire à mes côtés. Voilà. Enfin, ensemble, tous les trois. Ils n'étaient pas à mes côtés, on était vraiment tous les trois à bosser là-dessus. Après, il y a eu d'autres gens. Saïd Izem nous a mis en lien. Marc Fromager nous a montré vers quoi on ne voulait pas aller. Stéphane Sachet a été notre premier président. Ça, avec une aventure fusionnée avec l'association Psycho By Dub à Barnave. Psycho By Dub, donc tous ses membres ont été aussi des... vraiment très soutien. On a fusionné le matériel, on a fusionné tout un tas de trucs pour que ça puisse se faire. Donc c'était... voilà, c'est beaucoup de gens. Et puis très rapidement, on a fait des réunions publiques et on a pu constituer comme ça aussi un CA de gens qui étaient a priori pas... enfin, qui adhéraient au projet, quoi. Et donc ça a amené aussi là plein de... Enfin, je cite Franck Lepriol, Luc Boussard de cette période.
En 10 années de pratique, comment la radio a progressé et quels sont ses freins dans son développement ou dans son épanouissement, s'il y en a des freins?
Je vais commencer par les freins. Les freins passés, ce qui a beaucoup freiné Erdiwa, c'est sa capacité financière, c'est la confiance que les habitants localement pouvaient lui accorder. Alors, par exemple, dans l'envie, la nécessité, ou en tout cas être suffisamment accueillant pour voilà, participer à des interviews, par exemple. Ça a été le regard des élus aussi. On a eu quand même tout entendu, quoi. Donc, encore une fois, c'est une question de confiance, prouver notre sérieux. Les freins, voilà, c'est qu'en dehors de ceux qui y croyaient, mais qui ne se sentaient pas du tout en capacité de tenir réellement les rênes, qui ont donc toujours été nos soutiens, y compris administrateurs dans le conseil d'administration, et en face des gens qui en ont au mieux rien à foutre, au pire, envie de te mettre des bâtons dans les roues, voilà, c'était quelque chose d'assez compliqué et puis qui est étonnant aussi. C'est très français, hein, mais de devoir prouver son sérieux comme ça en permanence, de ne pas pouvoir obtenir comme ça une reconnaissance, je dirais, par défaut, parce qu'on a au moins l'élan de proposer quelque chose de nouveau et puis d'accepter qu'il y ait peut-être une part de déchets là-dedans, si tant est qu'il y en ait. Et puis quand nous, au bout de même 3-4 ans d'existence, on était en place, moi j'aurais aimé effectivement à ce moment-là être reconnu un peu plus vite. Parce que je ne vois pas vraiment quelle différence il y a entre maintenant et justement au bout de 4 ans d'existence. Mais ça rend plus fort, ça énerve, mais ça rend plus fort. Ça permet aussi d'apprendre à vivre sans ces gens-là. Et puis peut-être que maintenant, c'est eux qui se bouffent les doigts, puisque du coup, on n'a vraiment pas besoin d'eux. On fait notre truc en totale indépendance et c'est tant mieux. Donc voilà, ça c'est pour les freins.
Qu'est-ce qu'il... Donc il y a eu des empêchements à des moments de la vie de RDOA.
Avoir un local par exemple, avoir assez d'argent pour émettre sur Internet, avoir le matos à temps, à obtenir les fréquences par le CSA, enfin c'est tout un tas de trucs qui sont... Bon, on se plaint pas, mais c'est normal, quoi. Enfin, c'est un peu normal, quoi, je pense.
Et donc, du coup, malgré tout, RDOA s'est épanoui. Alors, où est-ce qu'il faut aller chercher cette énergie pour pouvoir durer?
C'est le collectif, hein. C'est l'accumulation des puissances individuelles qui se reconnaissent dans leur accès à la libre parole, à la liberté de produire, à l'autonomie, au plaisir d'être ensemble, au collectif aussi, qui ont envie de cette aventure collective. Et en plus de tout un tas de choses ultra personnelles qu'ils viennent mettre en travail à la radio, qui fait que ça ne s'arrête pas, quoi. Enfin, en fait... je ne crois pas qu'on ait eu une année où on n'avait pas un gros projet structurant, tu vois, une espèce de truc qui allait soit fondamentalement changer la radio, soit l'envoyer dans une autre direction, quoi.
Resonance, aka Becca and I Grade.
Say with the resonance of unity, say spirituality is higher than religion knows the way.
Comment tu rêves la radio RDOA pour les années à venir?
Je la rêve toujours aussi présente, parce que ça, je t'avoue, je l'ai déjà dit à plein de gens, mais que c'est une de mes craintes, hein. Les radios associatives, les associations, d'une manière générale, souffrent de leurs membres. Plus les membres vieillissent, plus l'association vieillit. Moins elle arrive à susciter l'intérêt, plus elle disparaît dans sa tour d'ivoire, quoi. Et les radios asso, bien sûr, subissent ça aussi. Et on le voit, là autour, les radios qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous on en a 10. Voilà. Tout ça, c'est des paliers qui, à mon avis, doivent se regarder de près. Donc, j'aimerais qu'elle reste toujours aussi accueillante et fraîche pour qu'il y ait toujours des gens qui aient envie de produire des trucs frais ou d'autres qui se sentent suffisamment accueillis pour proposer des nouvelles choses. Ensuite, je la rêve encore plus écoutée. Et donc, si plus écoutée, plus encore identifié comme acteur de l'éducation populaire, de la démocratie, du bien-être que procure justement la liberté d'expression, le débat, les échanges. Voilà. Donc bon, ça, c'est les gens qui choisissent, quoi. S'ils ont envie de l'écouter un peu plus encore ou de transmettre aux autres que là-dessus, on est quand même... un peu plus, je trouve pas le bon terme, un peu plus invité à faire marcher son cerveau que sur d'autres types de médias, pour pas être méchant.
Est-ce que tu pourrais nous confier un souvenir de radio avec RDOA qui aurait été pour toi assez fort?
J'ai en tête le tout premier reportage qu'on a fait avec Louis. C'était dans un lieu qui s'appelait Le Locataire, qui était déjà un espace dédié à plusieurs associations, mais qui n'existe plus. Et où là, d'abord, c'était un lieu qui nous avait accueillis aussi pour qu'on fasse nos AG et tout. Donc, on s'était bien marré. On avait senti qu'on avait notre place là, que les gens étaient OK, qu'on se trimballait avec le micro, qu'ils avaient en plus des choses à dire et qu'ils étaient contents d'avoir un micro qui vienne chez eux pour le faire. Donc là, c'était une... un bon moyen de se dire, bon, on est parti. Sinon, j'ai plein de souvenirs liés à mon émission, perso, parce qu'elle est un petit peu plus vieille que ce reportage-là. On avait pu commencer... Louis faisait déjà des émissions sur Radio Saint-Ferréol depuis une bonne année. Et moi, j'ai commencé à faire des émissions en octobre 2009, on va dire, alors que ce reportage date de décembre et qu'en gros, on commence réellement à émettre en continu à partir de juin 2010, quoi. Donc là, il y a plein... j'ai pu aller dans des concerts, enregistrer des gens, être super bien accueilli par cette communauté, mais c'est aussi lié au fait qu'il y a une fusion avec l'asso Psycho by Dove. Puis après, j'ai des souvenirs le premier studio mobile qu'on fait sur le marché, une espèce de truc complètement en vrac, sous une tonnelle, avec Toff... là, c'était vraiment bien marré. Il y a eu les Espiègleries aussi, le premier festival dit Espiègleries de la Clairette, où ça s'était passé sur la place du Méros, et où là, on avait passé 2 jours à faire vraiment beaucoup, beaucoup de directs, où un peu tout le monde avait participé. Cosmorama avait fait un truc spécial, Colin aussi. Enfin, il y avait eu tout un tas de gens qui avaient... Voilà, et puis on était dehors, et on voyait cette famille-là qui évoluait ensemble, et... qui aimait bien ce qu'elle faisait, qui était contente de le faire. Ça, c'est un peu des grands moments erdiois. Mais c'est con de citer cela, parce qu'en fait, j'ai quelques mauvais souvenirs, mais globalement, l'aventure erdiois, c'est que du bon, quoi. C'est que des trucs, toujours des émissions nouvelles, toujours des trucs... Je te dis, de la surprise, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je suis encore toujours agréablement surpris... toujours passionné et je ressens pas trop la routine, tu vois, ou des trucs comme ça. Quand bien même on ferait toujours des interviews, c'est à chaque fois un truc différent. Donc,
Et donc, cette famille là, Erdiwa, est toujours
qu'elle a présente. Pas beaucoup bougé, hein. Ouais. Elle a très peu bougé en fait. Il y a une partie des administrateurs qui ont vieilli, notamment. Mais y a des émissions qui sont là depuis 10 ans, quoi. Mais toi-même, par exemple, t'es parti, t'es revenu. Tu pars 2 ans, tu reviens. Et ça fait 2 ans que t'es là. En fait, on a l'impression que les gens, ils lâcheront pas, quoi. Que c'est... comme quand t'as pris ta licence sportive, si tu t'arrêtes, après, tu deviens un flasque. Voilà. Et ça, d'ailleurs, merci. Merci à tous. Tous, parce que vous êtes là depuis longtemps et vous êtes l'identité d'Erdiwa, plus encore que les salariés qui se sont enchaînés. Je suis peut-être le dernier qui reste là depuis le début. Baba Sadnaha, Melodica, avec Rutical France en invité. Sa version dub, le Drake Dog Tales, sur l'album Dub Mystics.
Il y a une personnalité de la radio, de ce que tu as pu entendre dans ta vie, qui aura inspiré, toi, ton travail ici à Erdiwa.
Ouais, tout à l'heure, quand tu allais dire ce que tu avais comme souvenir de radio, je ne pensais pas que c'était pour Radio Diwa. Mais alors là, du coup, je vais plutôt... Je ne sais pas si cette personne m'a influencé. En tout cas, elle a marqué la radio comme étant un média majeur dans ma vie d'ado. Alors d'abord, première chose, mes parents sont des auditeurs inconditionnels de France Inter. Même si aujourd'hui, ils en ont marre, par exemple, de la tonalité de cette chaîne. bah, ils l'écoutent toujours pour dire à quel point ils en ont vraiment marre. Voilà. Donc, je pense qu'ils ne s'arrêteront pas, ils attendront de voir si elle est capable de changer. Donc moi, je l'ai toujours entendu, France Inter, mais alors toujours, toujours, toujours. Donc les premiers noms que je pourrais te sortir, c'est Le Noir, c'est La Bande à Bono, qui était le soir, là, à 17h. C'est, comment il s'appelait, là, Foulquier, Jean-Luc Hess, des gens comme ça, pour certains très mal tournés d'ailleurs, mais que j'entendais à la radio, l'Odéon, Carrefour l'Odéon, Lucien Jeunesse, évidemment. Voilà, tous ces gens-là, je connais leur voix, je connais leurs émissions, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé. Ça, c'est un peu fort. Et donc voilà, ça, c'est sans doute mes premiers souvenirs de radio, mais sans te dire précisément qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Et après, ado, je suis tombé en plein dans le moment où certaines radios réseau, dites de catégorie C aujourd'hui, étaient en complet craquage, dit de radio libre. Et c'était notamment le cas de Fun Radio, parce que dans le Diwa, on ne captait pas énormément de radio, mais Fun passait. Et Fun, c'était du grand n'importe quoi dans les années 90. Les animateurs étaient complètement lâchés. Ils étaient sur une programmation hyper éclectique, découvreurs du rap, des nouvelles formes de rock'n'roll et de la musique électronique. Moi, j'ai pris une claque en musique électronique à ce moment-là, parce que j'étais dans le métal. Et donc là, il y a plusieurs noms, évidemment Doc et Difool à cette période, Bill, Le Matin, Arnold, ces gens-là, et Max. Max et l'émission qui s'appelait le Star System, qui commençait grosso modo à 22h, mais tu ne savais jamais comment le terminer. Et là, moi, j'ai cramé toute mon adolescence là-dessus. Hein. J'étais obligé de dormir encore le lendemain. Parce que je mettais le poste, pas trop fort pour pas que mes parents se vénèrent. Et puis j'écoutais ça. Et là, alors là, mais là, ils passaient 80% de leur temps à dire des conneries. Complètement lâchés, tu vois, à se vanner. Et puis, il y avait des auditeurs qui pouvaient les appeler, réagir sur des sujets, y jouer, y rigoler. C'était fandard à fond, de la bonne zik. Voilà, il n'y avait pas forcément besoin que ce soit intelligent, quoi, en fait. Et d'ailleurs, mes parents me reprochaient que c'était très con. Mais c'était très, très relâché comme ambiance. Et ça, ça m'a marqué, parce que c'est vraiment un truc que j'ai suivi pendant peut-être 5-6 ans. Après, j'ai dû bouger. Et là, mon rapport à la radio était très de loin en loin, quoi, dans la voiture. Hop, on zappe, on écoute ci, on écoute ça. Du coup, France Inter est revenu plein pot. Alors, quel autre moyen que d'être à heure fixe, sûr d'avoir un peu d'infos, c'est France Inter. Voilà, mais je ne peux pas te dire que c'est ce qui fait partie de ce qui m'a amené à la radio. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la radio avait de l'affection dans mon cœur.
Il est bienvenu sur Fun Radio, le Star System est de retour avec toute son équipe, Pierre Rigaud sur l'IRC.funradio.fr, vous y allez, c'est sur l'internet, vous dialoguez en direct, les gars, il y a également, enfin les gars, il y a les filles aussi, hein, il y a des filles un peu, il y a de la nana.
Il y a de la go.
C'est vrai, il y a de la go on dit.
Ouais, de la go. Ah ouais, on peut chez Cachetago.
Fais voir un peu là comment ça se passe.
C'est une histoire un peu dingue, cette histoire de radio, quoi. Au départ... Moi, je trouve ça sympa de diffuser un peu de la musique qui passe pas en radio, justement. Parce que, alors pour te parler de Fun Radio, je peux dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est de l'inécoutable. Il n'y a rien d'original. T'écoutes Fun, Énergie ou je ne sais pas quelle autre radio. C'est la même musique, quasi au même moment, les mêmes pubs, les mêmes voix criardes, la même manière de produire, le même son, je veux dire, la structure du son qui sort. Et presque en opposition avec des radios que j'ai vraiment bien aimées. Ça, pour le coup, quand j'ai eu envie de monter une radio, Fun m'est revenu dans la tête en plein pot, quoi. Je me suis dit, en tout cas, une radio, c'est clair que ça va être l'occasion de passer autre chose que tout ça. Profiter pour faire ressortir de la musique qui, si ce n'est underground, comme là, dans Melting Dub, encore un peu underground, mais en tout cas, des sons qu'on n'entend plus, et puis pas hésiter à piocher aussi dans du très ancien, et puis... dans du très nouveau, être découvreur, se faire plaisir au sens musical du terme. Donc, Voilà, ça, moi, c'est ça qui me pousse là-dedans. Après, Louis conjugue ça avec l'idée qu'on pourrait en profiter pour que la population s'empare de ce truc-là. Et moi, je suis éducateur spécialisé. Alors là, ça a tilté direct. J'ai fait, ah ouais, trop bien. Oui, si, effectivement, là, si tout le monde en plus le fait et qu'on n'a plus qu'à mettre que la musique, on est bien. C'est un peu ça, l'idée. Alors, on s'est dit que si on pouvait en vivre, bah alors là, ce serait encore mieux.
Oui, et la musique sur RDY a une grande place. Hein, ça va dans tous les styles, tous les genres.
Ouais, bah ça, je pense que ça, on va dire, c'est une des obligations des radios associatives. C'est que, comme on n'aura jamais soit assez d'argent pour avoir des chroniqueurs en permanence ou des animateurs en permanence, soit assez de temps bénévole, bon bah il y a plein de plages qui sont occupées par de la musique. Et là, je pense que c'est à ce moment-là qu'une radio peut se démarquer des autres, c'est-à-dire entre radios associatives déjà, par sa tonalité musicale d'ensemble, au-delà des émissions musicales elles-mêmes, et des autres radios aussi. C'est-à-dire que bah, là, tu deviens un peu original. Voilà. Sur Internet, tu rentres dans la grande concurrence des radios qui proposent une ambiance particulière, agréable à écouter, ou que t'aimes découvrir et tout. Mais bon, moi je me suis rendu compte par exemple en local, puisqu'on a du retour assez immédiat des gens qui parfois tombent sur notre radio alors qu'ils ne voudraient pas, qui ne sont pas du tout prêts à être chamboulés musicalement, que ça passe de ça à ça, des styles musicaux dont ils n'ont même pas peut-être pas assez, c'est péjoratif de dire ça, mais la culture ou l'ouverture d'esprit pour le prendre comme un... Voilà, comme un instant musical, une découverte, tu vois. Ça fait peur, hein, des fois, les trucs nouveaux comme ça. Enfin, t'es pas habitué.
Oui, et la radio, ça sert à ça, c'est la découverte.
Éducation populaire, c'est ce que je te disais. Pour moi, c'est pareil pour la musique ou pour le reste. Il y a quelques semaines, sortait Chapters, un nouveau titre signé Raccoon, sur l'album Something Precious, qui va paraître, je sais pas quand, parce que là il y a un single le 11 juin. Peut-être, en fait, si je devais être honnête, c'est clair qu'en fait, la radio marque ma vie parce que je me suis retrouvé très, très rapidement à être hyper critique de ce média-là parce que c'est le seul que je maîtrise en vrai. Voilà, moi, je ne sais pas trop quoi te dire sur la presse, si elle a évolué, si elle est pire qu'avant, si le monde a changé ou quoi. Alors que le monde, le journal, hein. Alors que France Inter, oui, je peux le dire. Donc, du coup... Je me suis rendu compte progressivement que bah, y avait des choses qui m'agaçaient en tant qu'auditeur et c'est des choses qui jalonnent aujourd'hui mon travail. Donc, pour moi, les premières qualités pour faire de la radio ou pour peut-être faire du journalisme même, je vais aller plus loin, c'est d'être hyper curieux et d'être quelqu'un qui écoute. Voilà. Donc, ça veut dire que bah, tu t'écoutes pas parler déjà. T'es pas là pour monopoliser de ton avis personnel. T'es là pour poser des questions, orienter. On l'a déjà, ton avis, en fait, dans tes questions. Donc ça va, c'est très bien, ça suffit. Et pour susciter chez l'auditrice et l'auditeur qui, lui, subit concrètement ton programme. Enfin, il a même pas le loisir de venir poser une question annexe ou de dire « je suis pas d'accord ». Donc, d'être suffisamment humble pour laisser juste l'autre, l'invité, les invités, ceux qui sont pris en reportage, exposer leur point de vue le plus naturellement possible. Et puis, moi j'estime que l'intelligence individuelle ou l'intelligence collective peut faire le tri là-dedans. Voilà, donc je pense que ça, c'est clairement, il faut être très curieux, très 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 curieux, avoir envie de porter de l'attention un peu à tout, même si c'est pas ce qui est demandé, mais une fois qu'on l'a et qu'on est là, et ben alors ça a de l'intérêt. Voilà, on va sur ce reportage, ça a de l'intérêt. Et donc on en est curieux et on l'explore de la manière la plus naturelle possible, parce que bah, moi, si je vais dans, je sais pas moi, une concentration d'astronomes, j'y connais rien. Bon, bah, alors donc j'y connais rien, je peux poser des questions de base. Ça marchera aussi. Et écouter les gens, voilà. Tu t'arrêtes, tu te poses et tu dis plus rien pendant un moment. Ce que tu es en train de faire là, tu vois. T'attends que ça passe. Et puis ça te nourrit d'autres choses, ça te permet d'aller ailleurs. Et puis tu laisses surtout les gens, tu coupes pas la parole et tu laisses donc les auditrices et les auditeurs libres d'accrocher, de décrocher et de se faire tranquillement leur point de vue.
Voilà. Et les bureaux de RDIWA sont aussi un espace d'accueil et de rencontre.
Ben alors ça c'est voilà. Bon alors. Disons que tu ne fais pas de la radio exactement juste en claquant des doigts. Nous, on est beaucoup allé voir d'autres radios, comment elles étaient organisées, comment les gens étaient accueillis, comment ils pouvaient produire, comment était fait leur studio, etc. Et on est parti sur un modèle qui, nous paraissait le plus convivial possible. Donc, pas de séparation entre les salariés et les bénévoles dans les espaces de travail. Voilà, pour pas qu'il y ait un marquage comme ça. Et puis, pas de séparation non plus entre la technique et les invités dans la partie studio. Des choses qui ont je pense, qui ont vachement joué.
Voilà, faire tout le possible pour permettre ça, la rencontre.
Ouais, que les gens se rencontrent, qu'ils aient un truc en commun aussi. Ça, je pense que ça a été aussi très déterminant dans l'aventure RDIWA, c'est que quasiment tout de suite, les gens qui la constituent, qui produisent des émissions dessus, avaient à cœur que ce soit leur petit truc à eux. Tu vois, ils en prennent soin. Ils l'écoutent aussi. Et ils veillent dessus à ce qu'il y ait toujours la même qualité d'accueil, la même possibilité pour chacun de venir... se rencontrer et puis après s'aimer, parce que ben, du coup voilà, on dit c'est un peu une famille, où je disais ce train qui va très vite, bon bah après t'en redescends pas aussi facilement, et puis parce que t'as pas envie quoi, en fait tu te sens pris d'une aventure humaine qui nous dépasse, qui dépasse ce que je dis là, qui dépasse c'est le sens un peu des j'allais dire des interviews que t'es en train d'essayer de faire, c'est de savoir. On pourrait se poser la question de pourquoi est-ce que les gens sont venus d'abord à faire de la radio. On peut se demander ensuite pourquoi est-ce qu'ils sont venus à RDIWA. Et enfin, pourquoi ils y sont restés. Et sans doute parce qu'il y a un mix de tout ce qu'on vient de dire. Parce qu'ils s'y sentent bien, ils s'y sentent libres, ils s'y sentent engagés, ils s'y sentent pris dans un... Voilà, dans une société qui fonctionne, qui se respecte et... Et voilà, on en a vachement besoin quand on voit que nos sociétés nous martèlent, nous tuent, nous tout un tas de trucs. Et ben, ces petits endroits où tu peux faire cause commune, corps commun, en ayant encore une fois toute une diversité incroyable. Enfin, des gens qui écoutent pas du tout la même musique, qui pensent pas tout à fait pareil, mais qui peuvent faire cause commune en fait quand même. Et je trouve que bon, d'une manière générale, les assos portent ça, mais les radios associatives portent ça très bien quand elles y arrivent encore, quand elles le peuvent, et que ça pourrait même être un de leurs objectifs permanents, en fait, d'être là comme acteur du corps social, de l'expression populaire, de la démocratie en mouvement, du débat et de la joie et du plaisir.
Bon, voilà quoi.
Donc Melting Dub, c'est toutes les semaines, sans interruption, toute l'année, le jeudi à 21h.
Allez, Kaya Project. Alors ça, c'est un groupe un petit peu dans la tendance blues.
Que son mi mano.